Avant tout, je voudrais remercier le public, mais également la librairie Mola de m'avoir convié à présenter mon ouvrage, non, puisque c'est un ouvrage de droit du travail que je coécris avec un professeur de Paris 10 Nanterre, Emmanuel Dauquès. Donc, je ne vais pas présenter cet ouvrage parce que ce serait extrêmement fastidieux, puisque c'est un ouvrage qui est très technique, hein, qui porte sur la réglementation du travail. Donc, j'ai pas fait ce choix-là. Le choix que j'ai fait, en fait, c'est de parler de la loi El Khomri. D'accord, puisque c'est aujourd'hui quelque chose qui est d'une grande actualité, et pas de toute la loi El Khomri, parce qu'il faudrait prendre la journée pour l'expliquer toute la loi El Khomri. J'ai parlé de l'article 2 de la loi El Khomri. Alors, ce n'est pas le nom exact, hein, de la loi, mais le nom exact, c'est Travail de point Nouvelle Liberté et Protection pour les entreprises et les actifs. Donc, vous voyez que c'est, déjà, le titre en lui-même est un peu curieux. Donc, moi, je vais me concentrer sur cet article 2 qui porte sur ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors, plus exactement, c'est ce qui est dénoncé par certains, puisque vous savez qu'il y a encore aujourd'hui, hein, de très fortes résistances à l'égard de cet article 2, qui serait porteur, nous dit notamment la CGT, d'une inversion de la hiérarchie des normes. Hein. C'est aussi le discours de la Confédération CGT Force Ouvrière. Donc l'idée, c'est de savoir si cette inversion de la hiérarchie des normes, c'est un mythe ou une réalité. Donc on va un peu discuter de ça. Alors, je voudrais, avant d'aborder à proprement parler cet article 2, faire quelques précisions, trois précisions. Tout d'abord, et il faut le rappeler, la loi El Khomri contient bien d'autres dispositions que cet article 2. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Au fond, cet article 2, qui est sans doute le plus emblématique de la loi El Khomri, n'est qu'une petite partie de la loi El Khomri qui fait plus de 200 pages. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et pour le dire très nettement, il faut aussi avoir l'idée, et pour parler trivialement, que dans la loi El Khomri, tout n'est pas à jeter. D'accord ? Il y a des choses tout à fait intéressantes. Alors, d'un point de vue très technique, hein, c'est-à-dire, il ne faut pas toujours présenter une loi du travail pour savoir est-ce que c'est en faveur des salariés ou est-ce que c'est en faveur des employeurs. Il y a certaines dispositions d'ordre très technique qui étaient absolument nécessaires, que je n'évoquerai pas ici, sur, par exemple, la révision, la dénonciation des conventions collectives, qui étaient nécessaires. Donc celles-là, vous voyez, elles sont tout à fait bienvenues. Ensuite, il y a aussi quelques droits, hein, pour les salariés. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein, faut quand même le souligner, mais il y a dans la loi El Khomri quelques prérogatives nouvelles données aux salariés. Alors, on parle souvent du compte personnel d'activité. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Bon, je ne vous cache pas que pour l'instant, je suis un peu dubitatif sur ce dispositif qu'est le compte personnel d'activité. Oui, ce serait un peu des droits attachés à la personne, notamment regrouper ce qu'on appelle aujourd'hui le compte personnel de formation. Donc un salarié, mais pas qu'un salarié, va acquérir des heures de formation qu'il va placer sur son compte pour les utiliser lors de périodes de chômage, par exemple, etc. Donc il y a quelques droits, mais très clairement, ce n'est pas l'aspect le plus évident de la loi El Khomri, les droits des salariés. Après, ce qui est certain, et je crois que personne ici ne le contestera ou ailleurs, c'est que la loi El Khomri est quand même d'inspiration libérale. Hein, ça, c'est une chose qu'il est important de retenir. Alors, encore une fois, c'est indéniable, hein, et c'est ceci qui explique peut-être cela, parce que pourquoi certains sont dans la rue, c'est peut-être parce qu'ils ont été déçus qu'au fond, un gouvernement de gauche porte une loi qui est d'inspiration libérale. D'accord, étant observé que certains qui étaient auparavant aux manettes n'ont pas été aussi loin que la loi El Khomri. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être un peu troublant et qui peut expliquer que beaucoup de gens déçus, pour le dire très clairement, par notre président de la République et par son gouvernement soient aujourd'hui dans la rue. Parce que, je vais essayer de vous le démontrer, au fond, cet article 2 n'est pas si révolutionnaire qu'on veut bien le présenter. Donc ça, c'était la première précision. Deuxième précision, c'est on peut s'interroger sur la volonté qui précède cette loi El Khomri, ou de quelle volonté procède la loi El Khomri. Alors, on l'entend souvent dire, la loi El Khomri procéderait de la volonté de réformer le marché du travail. Alors, on va le dire très clairement les choses, parler de marché du travail, ça n'a aucun sens. D'un point de vue juridique, pour une raison très très simple, c'est que le travail n'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise, le travail. Donc, il n'y a pas un coût du travail, ou avec une offre, une demande, enfin, je ne sais pas, il n'y a pas un marché du travail. Alors peut-être que dans les sciences économiques, et j'y reviendrai, on évoque cette idée-là, mais en droit, puisque c'est d'abord de droit dont il s'agit ici, le marché du travail n'a aucun sens. Donc ce qui est à l'origine de la loi El Khomri, c'est la volonté de réformer non pas le marché du travail, mais très simplement ceci, à savoir le code du travail. Puisque vous savez que ce code du travail est accusé de tous les maux, hein. On est obèse, il est illisible, etc., etc. Alors, effectivement, il est assez épais, mais j'aurais pu vous amener le code de commerce, j'aurais pu vous amener le code général des impôts, j'aurais pu vous amener le code civil. Et vous auriez remarqué qu'ils ne sont pas plus fin ou pas plus épais. Donc, vous voyez, il faut aussi, là, encore une fois, se garder de la désinformation et des jugements à l'emporte-pièce. Donc, réformer le code du travail, puisque, selon certains, la complexité du droit du travail aurait un impact négatif sur l'emploi. D'accord ? Serait facteur de chômage. Alors, peut-être. Peut-être. Le problème, c'est que ça n'a jamais été scientifiquement démontré. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Cette relation de cause à effet entre corpus de texte propre au droit du travail et la courbe du chômage n'a pas été scientifiquement démontrée. Nonobstant ce que peuvent dire ici ou là les spécialistes des sciences dites économiques. Donc, encore une fois, en sciences économiques, ça n'a jamais été démontré. Donc, vous voyez que là aussi, moi, je veux bien entendre un certain nombre de discours, mais il faut à un moment donné revenir à la science. Et la science n'a pas démontré cette relation de cause à effet. Donc, on ne sait pas si, en vérité, réformer le code du travail va créer de l'emploi. Donc, ça, c'est aussi une précision importante à faire. Enfin, dernière précision, et elle est d'ordre plus technique, c'est que moi, je vais présenter ici l'article 2 de la loi El Khomri, tel qu'il a résulté des discussions entre guillemets, devant l'Assemblée nationale. D'accord ? Puisque, vous l'avez sans doute entendu, le Sénat a pas mal retouché la loi El Khomri, assez peu l'article 2. Il a retouché un petit peu, mais il a quand même pas mal modifié la loi. Bon, alors pourquoi j'ai parlé, moi, de la loi telle qu'elle est ressortie de l'Assemblée nationale ? Parce que, ben, vous le devinez sans peine, c'est qu'il va y avoir une navette. La loi va passer du Sénat à l'Assemblée nationale et bien évidemment, l'Assemblée nationale va remettre en cause ce qu'a décidé le Sénat, qui est alors encore allé plus loin dans la voie libérale, ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Donc après, vous voyez, il y a des jeux de dupes qui se font. Oui, regardez, si la droite était au pouvoir, ce qu'elle ferait, etc., etc. Alors bon, je remarque que la droite a été au pouvoir, elle n'a pas fait ce que fait gouvernement Valls dans la loi El Khomri. Donc vous voyez, c'est encore une fois ici un petit jeu de dupes qui me paraît tout à fait particulier. Mais après, il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a certaines modifications adoptées par le Sénat qui devront, à mon avis, être maintenues, parce qu'elles ont été faites avec l'aval du gouvernement ou de la ministre du Travail. Donc il y a quelques petites dispositions ici ou là qui devraient rester. Il y a notamment quelque chose, je crois, d'assez intéressant qui est aussi en lien direct avec des choses très, très, très d'actualité. C'est que si la loi reste en l'état, elle permettrait aux entreprises de se déclarer neutres. Alors vis-à-vis de quoi, vous le devinez sans doute, c'est vis-à-vis du fait religieux. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai changement. Donc si la loi, encore une fois, reste en l'état, une entreprise, dans son règlement intérieur, mais alors c'est très mal rédigé, mais visiblement, postérieurement à l'adoption d'un accord collectif, pourrait se déclarer, entre guillemets, neutre. C'est-à-dire qu'au fond, on interdirait ici les manifestations religieuses, quelles qu'elles soient, bon, le foulard, etc., mais aussi la croix, la kippa, enfin tout ce que vous voulez. D'accord ? Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu plus précis que ça. D'accord ? C'est un peu plus précis que ça parce que aujourd'hui, pour dire là aussi très simplement les choses, il me paraît extrêmement discutable d'un point de vue juridique qu'une entreprise, même avec l'aval de la loi, puisse se déclarer neutre. Parce qu'en se déclarant neutre, vous remettez en cause la liberté religieuse des salariés. Or, vous portez atteinte à leur liberté individuelle, à leur liberté fondamentale. Et ça, ce n'est possible que sous certaines conditions. Donc, au fond, ce texte, j'ai envie de dire, là, qui permettrait la neutralité, ne change rien au droit positif. Vous voyez, on est plus sur de l'effet d'annonce, en vérité, que sur un changement radical. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver avec notre article 2, et donc avec cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes que je vais essayer de vous décrire. Alors, assez simplement, c'est quand même une question assez complexe. Je ne suis pas certain que tout le monde ait compris de quoi il s'agissait lorsqu'on écoute ici et là, notamment certains débats. Moi, je suis parfois surpris, pour dire très clairement, les débats à la télévision entre des spécialistes des sciences économiques qui viennent parler de droit, moi, je vous en dis, ça m'embouche toujours un petit coin. D'accord ? Moi, je suis juriste. Je ne prétends pas faire la science économique. Pourtant, je vois des économistes qui prétendent faire du droit. C'est toujours un peu troublant. Enfin, leur dire, occupez-vous de vos affaires. Moi, je m'occupe des miennes. Bon, c'est un peu particulier. On les entend dire des choses un peu bizarres. Étant observé qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez peut-être vu dans Le Monde, il y a eu à un moment donné une tribune signée par Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie et quelques autres, en disant la loi El Khomri, c'est formidable. Et quelques jours après, vous avez une autre tribune signée par Thomas Piketty, un autre économiste de renom, dit ah non. La loi El Khomri, c'est pas bien. Mais bon, mettez-vous d'accord. Si c'est une science exacte que la science économique, il devrait y avoir une seule et même une même voix. Donc, vous voyez, c'est un peu troublant vu du point de vue du juriste. Enfin bref. Donc cela étant dit, il faut rappeler, en fait, pour bien comprendre cet article 2, rappeler quelques règles essentielles de notre droit du travail. Ce qui caractérise le droit du travail français, mais pas uniquement le droit du travail français, hein, c'est aussi le cas dans d'autres pays. Ce qui caractérise notre droit du travail français, donc, c'est la coexistence entre ce que je vais appeler un droit imposé, c'est-à-dire la loi et les textes d'application, à savoir les règlements et les décrets, qui figurent où ? Ben là-dedans, dans le Code du travail. Donc coexistence entre un droit imposé et un droit négocié. Ce droit négocié, quelle forme il prend ? Les conventions et accords collectifs de travail, mais pas uniquement, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un petit acte juridique qui est également négocié, c'est le contrat de travail. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est cette coexistence de normes contraignantes qui caractérise le droit du travail français, pour rester évidemment ici dans le périmètre national. Je ne parle pas, il y a des textes imposés qui sont supranationaux. La Convention européenne des droits de l'homme, les normes de l'Organisation internationale du travail, etc. Mais on va rester, nous, sur cette coexistence-là, parce que c'est celle qui intéresse l'article 2 de la loi El Khomri. Alors, d'un côté, la loi et les textes d'application, donc pour le dire très simplement, je dirais comme ça à l'avenir, le Code du travail, et d'un autre côté, les conventions et les accords collectifs de travail. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que des accords collectifs de travail, des conventions collectives de travail peuvent être conclus à différents niveaux dans notre pays. Le plus haut niveau, c'est le niveau national interprofessionnel, c'est-à-dire un accord collectif qui va s'appliquer à toutes les entreprises situées en France, l'accord national interprofessionnel. Ensuite, vous avez un autre niveau qui est inférieur, c'est le niveau de la branche, hein, ou encore appelé le niveau professionnel. Donc là, vous allez avoir une convention collective qui va s'appliquer dans une branche d'activité, le textile, la chimie, l'édition, etc., etc. Donc ça, c'est des conventions collectives de branche qui vont s'appliquer donc à toutes les entreprises relevant de cette branche-là. Donc pour dire très simplement les choses, la Convention collective nationale de la chimie va s'appliquer dans toutes les entreprises qui, en France, ont pour activité principale la chimie. Donc vous avez cette convention collective de branche. Ensuite, vous avez la convention, alors c'est plus rare, mais je la mentionne juste pour mémoire, des conventions collectif de groupe, donc signé au niveau d'un groupe de société. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a également des conventions collectives d'entreprise. Et donc, le schéma le plus fréquent dans notre pays, c'est qu'un salarié travaillant dans une entreprise donnée va relever en règle générale à la fois d'une convention collective de branche et d'une convention, d'un accord collectif d'entreprise. Même si ce qui est le plus fréquent, c'est la convention collective nationale de branche. D'accord ? Il faut savoir qu'en France, plus de 90% des salariés sont couverts par une convention collective nationale de branche. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont déjà travaillé, enfin, s'ils sont des salariés du secteur privé, prenez un bulletin de salaire, vous allez avoir, parce que c'est une obligation hein, réglementaire, est mentionné dans le bulletin de salaire la convention collective nationale de branche applicable dans l'entreprise. Si ça n'y figure pas, vous faites partie des 5% de salariés qui ne sont pas couverts par une convention collective de branche, ce qui, encore une fois, est extrêmement rare. Donc, la question, au fond, qui se pose, c'est comment toutes ces normes doivent s'articuler entre elles. Donc, vous voyez qu'on est moins dans une logique de hiérarchie, à savoir que chaque norme dépend de celle qu'il y a au-dessus, que dans une logique d'articulation, puisque un salarié donné va être soumis au Code du travail, à la convention collective de branche et, le cas échéant, à une convention collective d'entreprise. Et donc, question, comment j'articule tout ça ? Vous voyez, donc, c'est à la fois simple et à la fois complexe. Alors, pour bien comprendre cette articulation, il faut un peu remonter dans le temps, il faut faire un peu d'histoire. C'est toujours intéressant, l'histoire, pour bien comprendre, au fond, ce que ça change. Alors, il faut ici distinguer deux choses. Il faut distinguer, d'un côté, pour bien comprendre, encore une fois, le système, l'articulation entre la convention collective et la loi, ce qui n'est pas en cause dans l'article 2, et ensuite évoquer l'articulation entre la convention collective de branche et la convention collective d'entreprise. Et c'est là que l'article 2 porte. Mais commençons quand même, pour mémoire, parce que c'est important, par l'articulation du Code du travail avec la convention collective ou les conventions collectives. Alors ici, on a une borne temporelle très très nette, c'est 1982. 1982, vous savez, c'est la gauche qui revient au pouvoir. Et c'est une borne temporelle, pourquoi ? Avant 1982, c'est très simple. Avant 1982, ça se passe de la manière suivante. La loi, pour dire simplement les choses, constitue en règle générale, parce qu'il y a quelques exceptions, la loi constitue en règle générale un plancher. C'est un plancher, c'est-à-dire que le Code du travail fixe des règles et la convention collective ne peut qu'améliorer ce qu'il y a dans la loi. C'est ce qu'on appelle en droit du travail le principe de faveur. La convention collective améliore nécessairement, forcément, ce qu'il y a dans le Code du travail. Et plus on descend, j'ai envie de dire, plus ça doit être favorable. Donc, vous savez que dans la loi, il y a un SMIC, salaire minimum. Ça, c'est le plancher. La convention de branche peut aller au-dessus. Si la convention collective de branche va au-dessus, que peut faire l'accord d'entreprise ? Aller au-dessus de la convention collective de branche. Plus je descends, plus c'est favorable. Et donc, jusqu'en 1982, c'est au fond relativement simple, la convention collective est un facteur évident de progrès social. Puisque dans la convention collective, je ne peux avoir que l'amélioration de la loi ou des avantages nouveaux. Bien évidemment, ça, ce n'est pas interdit, on peut toujours créer des avantages nouveaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 1982 ? En 1982, et je répète, c'est la gauche qui est au pouvoir, en 1982, on va créer ce qu'on appelle en droit du travail les accords dérogatoires. Alors, qu'est-ce que sont ? Que sont les accords dérogatoires ? Mais au fond, ici, ça va être très simple. C'est qu'on va permettre à l'accord collectif d'écarter la loi dans un sens qui n'est pas favorable pour les salariés. Vous voyez que c'est un changement radical et important. Jusqu'en 1982, on ne peut qu'améliorer. La loi, c'est un plancher. À partir de 1982, la loi pose une règle. La convention collective peut déroger à cette règle-là sans que ce soit nécessairement plus favorable pour les salariés. Pour vous donner un exemple très simple de cela. En matière de contrat à durée déterminée, je ne sais pas si vous le savez, lorsqu'un salarié est en contrat à durée déterminée, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à échéance, donc à la fin de la durée, le salarié a droit, en règle générale, il y a quelques exceptions, mais laissons ça de côté, le salarié a droit à une indemnité dite de précarité. Cette indemnité de précarité, la loi nous dit, elle est égale à 10% de la rémunération totale brute perçue au cours du contrat à durée déterminée. Donc c'est 10%. La loi fixe ici un plancher. Avant 1982, la seule chose qu'aurait pu faire la convention collective, c'est prévoir plus. Or, à partir de 1982, la loi dit c'est 10%, mais un accord collectif peut réduire à 6%. Donc, vous voyez, c'est ça l'accord dérogatoire. On enlève des droits aux salariés par rapport à ce qu'il y a dans la loi. Alors, évidemment, on peut toujours en ajouter. On n'interdit pas de prévoir 15, 20, 30, 40, 50, tout ce que l'on veut. D'accord ? Mais l'accord collectif peut aller en deçà de la loi. Donc c'est ça les accords dérogatoires. Donc vous voyez, ça c'est 1982. C'est pas 2008, c'est pas 2016, c'est 1982. L'accord collectif peut déroger à la loi. Alors avec quand même des limites. Il y a des limites assez importantes, lesquelles ? Au fond, il y en a deux. Premièrement, la dérogation n'est possible que si la loi l'autorise. Vous voyez, c'est pas... Non, c'est la loi qui dit, vous voyez, dans mon exemple, c'est 18%, mais vous pouvez descendre jusqu'à 6. Donc première condition, il faut que la loi l'autorise. Et deuxième condition, et l'exemple aussi, je crois, assez évocateur, la dérogation n'est possible qu'aux conditions de la loi. Donc, vous voyez qu'ici, dans mon exemple, ça ne peut pas être 5, ça ne peut pas être 4, ça s'arrête nécessairement à 6%. Avec une autre condition, c'est que l'accord collectif qui réduit de 10 à 6, alors il peut s'arrêter à 7, à 8, on est bien d'accord, doit prévoir des compensations pour les salariés. Ici, en termes de formation, d'accès prioritaire à la formation. Donc, autorisation de la loi, condition de la loi. Donc, vous voyez que ça, c'est, encore une fois, ancien. L'autre petit verrou qui est mis en 1982, c'est que cette dérogation n'est autorisée qu'en convention de branche. Et donc on laisse de côté la négociation d'entreprise. La négociation d'entreprise, elle ne peut jouer que le même rôle, toujours le même, amélioré. Donc la dérogation en 1982 n'est possible que pour la convention de branche. Alors pourquoi cette limite ? Pour une raison assez simple, qui n'est pas juridique, sur laquelle je reviendrai par la suite, c'est que traditionnellement, et vous voyez, ça, encore une fois, ça n'a rien de juridique. Il faut avoir à l'idée qu'une négociation collective, c'est fondamentalement un rapport de force. D'accord ? Si le rapport de force est équilibré, ça va. Lorsqu'il est déséquilibré, évidemment, dans un sens ou dans un autre, plutôt dans un sens en règle générale, on peut imaginer que les concessions seront différentes. Et donc, traditionnellement, au niveau de la branche, le rapport de force est plus équilibré au niveau de l'entreprise. Et notamment, au niveau de la branche, l'employeur n'est pas autant en position de force qu'il peut l'être, je ne dis pas qu'il l'est systématiquement, dans l'entreprise. Donc, vous voyez, petit verrou, 1982, cette dérogation n'est possible que par accord de branche, alors sous réserve de quelques exceptions. Donc ça, c'est la première borne temporelle. La deuxième borne temporelle, c'est 2004. Vous voyez, on fait quand même des sauts assez importants, on passe de 82 à 2004. 2004, donc là, c'est plus la gauche qui est au pouvoir, c'est la droite. C'est important d'avoir des marqueurs, non pas pour dénoncer les uns et les autres, mais pour éviter aussi de penser que c'est toujours la droite qui fait ceci ou toujours la gauche qui fait cela. Bon. Donc, 2004, c'est la droite qui est au pouvoir, plus exactement, c'est François Fillon qui est ministre du Travail, si je ne dis pas de bêtises. Voilà ce qui va se passer en 2004. Déjà, on va apporter une petite modification pour l'articulation loi-convention collective. Quelle modification ? Mais qui est assez importante, c'est que la loi de 2004, la loi Fillon de 2004, va autoriser la dérogation à la loi, non plus seulement aux accords de branche, mais également à quel type d'accord ? Les accords d'entreprise. D'accord ? Donc là, évidemment, c'est un petit peu différent. Donc 2004, l'accord d'entreprise peut déroger à la loi au même titre que l'accord de branche, qui est un changement assez important, alors qui est dénoncé à l'époque en disant oui, mais le rapport de force est moins équilibré au niveau de l'entreprise, etc. etc. Bon, c'est un changement d'ordre qualitatif, j'ai envie de dire, plus que quantitatif, mais là n'est pas l'apport premier de cette loi de 2004, cette loi Fillon de 2004. L'apport majeur de la loi de Fillon 2004, c'est qu'il va modifier l'articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise. Jusqu'en 2004, je le répète, l'accord d'entreprise ne peut qu'améliorer ce qu'il y a dans l'accord de branche. On est sur notre fameux principe de faveur. L'accord de branche dit les salariés ont droit à une prime de fin d'année égale à 100 euros. L'accord d'entreprise ne peut pas dire 50, il peut juste dire 150, 200, etc., etc. D'ailleurs, soit dit en passant, vous voyez, dans mon exemple, si l'accord de branche dit les salariés ont droit à une prime de fin d'année égale à 100 euros, si l'accord d'entreprise dit ben, dans notre entreprise, ça sera 50 euros, la stipulation n'est pas nulle. On applique juste l'accord de branche de préférence à l'accord d'entreprise qui reste en l'état. Vous voyez, c'est ça qui montre qu'il n'y a pas forcément cette idée de hiérarchie des normes n'est pas très juste parce que s'il y avait véritablement hiérarchie des normes, il y aurait un problème de validité hein, ici de l'accord d'entreprise. Mais si on sent de côté, c'est un peu compliqué. Donc jusqu'en 2004, l'accord d'entreprise peut et ne peut qu'améliorer ce qu'il y a dans l'accord de branche. Et donc là, on va avoir une vraie révolution en 2004. C'est qu'en 2004, la loi Fillon va autoriser l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche. Alors, vous voyez que c'est un changement complet de perspective. C'est-à-dire, pour dire simplement les choses, qu'à partir de 2004, l'accord d'entreprise fait au fond ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, les salariés ont droit à une prime de fin d'année égale à 100 euros, accord de branche. À partir de 2004, l'accord d'entreprise peut dire ben, chez nous, ça ne sera pas 100, ça sera 50. Ça sera 40, ça sera 10 ou ce sera rien. D'accord ? Ça, c'est la dérogation. Alors, la loi de 2004, vous voyez que le changement, est, encore une fois, c'est un changement profond. C'est un changement profond parce que jusqu'en 2004, depuis en gros 1919, hein, puisque la première grande loi sur les conventions collectives, c'est 1919, entre 1919 et 2004, l'accord d'entreprise ne peut qu'améliorer ce qu'il y a dans l'accord de branche. Alors, une petite exception sur les salaires, mais laissons ça de côté. Donc, un changement complet de perspective. Alors, eu égard à ce changement complet, on va mettre des verrous. Et c'est là qu'on voit que... Je pense que la loi El Khomri va plus loin, hein, plus loin que cette loi Fillon. Alors, quels sont ces verrous ? Alors, premier verrou, on va l'aborder très rapidement, c'est qu'il y a quatre thèmes, j'ai envie de dire, qui sont, entre guillemets, sanctuarisés. C'est notamment, alors, je vais en citer un sur les quatre, parce que les autres, c'est assez compliqué, c'est la mutualisation des fonds d'information professionnelle. Mais par exemple, il y a un thème qui est sanctuarisé, ce sont les salaires minima. Salaire minima, là, l'accord d'entreprise ne peut qu'améliorer ce qu'il y a dans l'accord de branche. En aucune façon, la dérogation n'est permise. Mais en dehors de ces quatre thèmes, salaire minima, fonds de la formation professionnelle, classification, et il y en a un que j'oublie, j'ai dû le noter quelque part, et les garanties collectives complémentaires, voilà. Donc en dehors de ces quatre thèmes, l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche. Donc vous voyez que c'est une vraie libération pour la négociation d'entreprise. Vous faites ce que vous voulez, mais il y a un second verrou qui est posé. Et c'est celui-là qui va, en réalité, poser difficulté, qui va faire difficulté. Quel est ce second verrou ? C'est que la loi dit la chose suivante. En dehors des quatre thèmes que je viens d'évoquer, l'accord d'entreprise peut déroger à l'accord de branche, sauf si l'accord de branche l'interdit. Et donc, devinez ce qui va se passer postérieurement à 2004, c'est que il va y avoir des négociations de branche, étant observé que cette réforme ne vaut que pour les textes signés postérieurement. Donc, après 2004, on va négocier au niveau de la branche. Et j'ai envie de dire, dans la quasi-totalité des cas, chaque fois, les négociateurs vont mettre dans l'accord de branche une clause de verrouillage. C'est-à-dire, voilà, nous, on décide ça. Attention, nous interdisons la dérogation au niveau de l'entreprise. Donc, moralité, si la dérogation est interdite, on ne peut faire quoi ? On ne peut qu'améliorer. Donc, vous voyez, ce changement profond, radical, révolutionnaire de 2004, au fond, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que on permet aux partenaires sociaux, au fond, de neutraliser la réforme. Et les partenaires sociaux vont la neutraliser. Mais il faut peut-être se demander pourquoi ils la neutralisent. Parce qu'un accord collectif, ça ne signe pas tout seul. J'y reviendrai. Il faut être deux hein, pour signer un accord collectif, une partie salariale et une partie employeur. Donc, ils vont neutraliser systématiquement. On va trouver peut-être une ou deux conventions de branche ou avenants qui vont effectivement autoriser la dérogation. Mais je le répète, dans la grande, grande, grande majorité des cas, il y a interdiction de la dérogation. Mais vous voyez qu'ici, le législateur permet quand même tout de même, et j'y reviens parce que c'est important pour bien comprendre l'article 2 de la loi El Khomri, le législateur permet à l'accord d'entreprise de faire ce qu'il veut. Ce sont les partenaires sociaux qui, eux-mêmes, de leur propre volonté, lorsqu'ils vont négocier des accords de branche postérieurement à 2020, qui vont dire non, nous on ne veut pas. On veut juste que l'accord d'entreprise, comme avant, améliore ce qu'il y a dans la convention de branche. Il y a une raison sur laquelle je reviendrai, hein, au-delà, mais il y a une raison importante à cela, qui va d'ailleurs, à mon avis, remettre peut-être en cause l'intérêt de la loi El Khomri. Donc voilà pour 2004. Alors, vous devinez, le législateur, confronté à cela, va réagir. Il va dire, attends, au fond, ma réforme, elle a servi à rien. Vous voyez, je voulais libérer la négociation d'entreprise pour permettre l'adaptation, pour permettre d'aller au plus bas et au plus proche des préoccupations des salariés et des employeurs dans l'entreprise. Et donc, il va revenir à la charge en 2008. Toujours la droite qui est au pouvoir. Et en 2008, alors là, on va inventer quelque chose de nouveau et que, pour le coup, on va retrouver dans la loi El Khomri. Vous voyez qu'il y a une proximité entre des réformes issues de logiques différentes. Qu'est-ce qu'on va faire en 2008 ? C'est que sur certains thèmes, quelques thèmes, qui tous intéressent la durée du travail, on va donner la priorité à l'accord d'entreprise. Donc, vous voyez, on est, pour reprendre cette image-là, pour le coup, véritablement ici en présence de quoi ? D'une inversion. Si tant est qu'on raisonne comme ça, on est en présence d'une inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que sur certaines questions, encore une fois, il n'y en a pas énormément. Il y en a 4-5, vous voyez, c'est pas beaucoup, alors qui sont importantes. C'est par exemple le contingent annuel d'heures supplémentaires, c'est la modulation du temps de travail sur l'année, par exemple. On va donner la priorité à l'accord d'entreprise. Donc, vous voyez que c'est une simplification radicale. Parce qu'ici, on ne raisonne plus en termes d'articulation, plus favorable, moins favorable, peu importe. On applique en priorité l'accord d'entreprise. Donc, au fond, ici, les négociateurs d'entreprise ont nécessairement raison. Ils l'ont voulu, on l'applique. Un point, c'est tout. Mais là, à nouveau, comme c'est un changement important, très important, le législateur, prudent, on va dire, pour ne pas employer d'autres mots, très prudent, va vraiment, vraiment limiter cette inversion à quelques thèmes très particuliers qui tous intéressent la durée du travail. Alors, il faut l'avoir à l'esprit, c'est que depuis 1982, la durée du travail, ça a toujours été le laboratoire, hein, si je puis dire, de la dérogation, du changement, de la réforme, etc. Et ça, on le retrouve très précisément dans l'article 2 de la loi El Khomri, parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que cet article 2 ne concerne pour l'heure que la durée du travail. Donc cette inversion de la hiérarchie des normes, pour employer encore une fois cette image, ne concerne pour l'heure que la durée du travail. Alors, l'idée, c'est de l'étendre. Puisque c'est, je vais vous l'expliquer, au fond, cet article 2 qui ne concerne que la durée du travail fournirait un modèle pour la réécriture, parce que ce qui est projeté, c'est la réécriture du Code du travail, mais avec, à plus long terme, à 2018. Alors avec un écueil de taille, c'est qu'il risque d'y avoir un petit changement en 2017, peut-être. On sait, visiblement, tout va bien et tout va mieux, ou je ne sais pas comment le dire, donc peut-être qu'il n'y aura pas de changement, mais bon, enfin, passons quoi. Donc, ce qui est annoncé à plus ou moins long terme, c'est une réécriture complète du Code du travail sur le modèle de l'article 2. Alors, comment est fait l'article 2 ? Alors, je ne vais pas prendre ici, parce qu'il est important, il est long, hein, l'article 2, il ne faut pas penser que c'est 15 lignes, hein, c'est très, très important. En fait, c'est bâti de la manière suivante. Pour chaque question, donc, qui tout intéresse, je répète, la durée du travail, c'est divisé en fait en trois parties. Vous avez une première partie qui, à chaque fois, est intitulée « L'ordre public ». Une deuxième partie qui est intitulée le champ ouvert à la négociation collective, et une troisième partie qui est intitulée « Dispositions supplétives ». Donc, ordre public, les règles impératives, champ de la négociation collective, ce que peut faire la négociation collective, dispositions supplétives, ce qu'on applique lorsqu'il n'y a pas de négociation collective. Alors, pour que vous compreniez, on va prendre un exemple très simple. Alors, c'est là où, justement, je vais m'éloigner un peu de l'article 2 tel qu'il est sorti du Sénat. On va prendre l'exemple des heures supplémentaires. D'accord, parce que je crois que c'est l'exemple le plus parlant qui a fait couler un petit peu d'encre dans un secteur, c'est le transport routier. Donc c'est rédigé de la manière suivante. Donc vous avez une section 3 de l'article 2 qui vous dit durée de référence et heures supplémentaires avec sous-section première ordre public. Alors je prends ici très volontairement, encore une fois, l'article tel qu'il est issu de la loi El Khomri adoptée par l'Assemblée nationale. Il nous dit la chose suivante, donc ordre public, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. D'accord ? Je vous lis juste ce qui est sorti du Sénat. Hein. La durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par accord collectif. Vous voyez la différence ? C'est que très clairement, le Sénat a supprimé les 35 heures. C'est fini. D'accord ? Mais ça, encore une fois, je le répète, ça ne va pas rester en l'état. On va revenir au texte de l'Assemblée nationale. Parce que si le texte du Sénat était maintenu tel quel, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de durée légale du travail. Ça serait fini. La durée légale, hein, petite parenthèse, c'est juste un seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Vous le savez sans doute, tout le monde ne le sait pas. Certains, en France, on a parfois l'impression qu'on ne peut pas travailler plus de 35 heures. Enfin, c'est une abomination que de dire cela. Donc, c'est un seuil de déclenchement. Et donc, ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires serait fixé par l'accord collectif, si on restait sur le dispositif du Sénat. Mais enfin, ça avait été un engagement très net hein, de la part de Valls et du président Hollande. On avait dit non, on ne touche pas aux 35 heures, donc on va revenir au texte de l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, c'est quand même problématique, le texte du Sénat, parce que ça peut être 35, ça peut être 36, 37, 38, 39, mais au-delà. 40, 41, etc. Donc on pourrait très bien imaginer que dans une entreprise, on dit, ben voilà, notre seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ça sera 41 heures par semaine. Bon, on peut évidemment ici être dubitatif quant à cela. Alors encore une fois, après un texte, ça ne se signe pas seul. Donc, ordre public, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Donc, on va rester sur une durée légale de 35 heures. Le texte poursuit, donc toujours sur l'ordre public, et je simplifie. Toute heure accomplie au-delà de cette durée de 35 heures doit donner lieu à un paiement majoré. D'accord ? Et ça s'arrête là. Et donc ensuite, on va passer au champ ouvert à la négociation collective. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la convention collective doit donc fixer une majoration aux heures supplémentaires qui ne peut être inférieure à 10%. Donc, si vous êtes payé, je dis n'importe quoi, 12 euros de l'heure, vous êtes payé 10% de plus que 12 euros. Donc, la négociation collective n'est pas n'importe laquelle. La négociation d'entreprise, ou à défaut la négociation de branche, doit fixer une majoration qui ne peut pas être inférieure à 10%. Et ensuite, on a les dispositions supplétives. Que nous disent les dispositions supplétives ? Si on n'a pas d'accord collectif, c'est 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, 50% pour les heures qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici ? Il faut comprendre très simplement, c'est que l'accord d'entreprise a toute latitude pour fixer le paiement majoré des heures supplémentaires sans pouvoir descendre en dessous de 10%. Alors, est-ce que c'est une révolution ? Moi, je n'ai pas tant l'impression que cela, en vérité. Reprenons ce qui existe aujourd'hui dans le Code du travail. Que nous dit le Code du travail aujourd'hui ? Nous dit la chose suivante. À partir de 35 heures, il y a des heures sup. Les 8 premières, c'est 25%. Les 8 suivantes, c'est 50%. Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite ? Une convention collective de branche ou d'entreprise peut descendre jusqu'à 10%. Vous voyez une différence entre les deux ? Alors, où elle est la différence ? La différence, elle est justement dans le verrou que pose la convention de branche, que peut poser la convention de branche. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la plupart des conventions de branche disent, ben, dans notre branche, ça sera 25%, et on interdit à l'accord d'entreprise d'aller en deçà. Si la loi El Khomri est adoptée, ça, c'est plus possible. C'est l'accord d'entreprise qui fait ce qu'il veut. 10, 12, 15, etc., etc. Donc, vous voyez que dire que cet article est révolutionnaire, moi, très franchement, non. C'est à la fois, vous voyez, une acclimatation, si je puis dire, ou une adaptation de ce qui s'est fait en 2004 et de ce qui s'est fait en 2008. Alors, ce qui est clair, ce qui est vrai, c'est qu'on libère très clairement la négociation d'entreprise. Ça, c'est une évidence. Mais au fond, le législateur l'avait libéré en 2004, mais en réservant la main, en donnant la main, si je puis dire, à la négociation de branche. Donc, vous voyez que c'est ça, le changement. Donc, il n'est pas si révolutionnaire que ça. Mais voilà, la modification, elle est là. C'est qu'on perd la main au niveau de la branche. Et donc, on peut tout faire au niveau de l'entreprise. Donc, voilà. La substance de l'article 2, et on pourrait le décliner. Alors, vous voyez, ce qu'on nous annonce, là aussi, c'est une parenthèse, on voudrait bâtir tout le Code du travail sur ce modèle-là. Ordre public, négociation collective, disposition supplétive. Sauf qu'il y a des dispositions qui ne se prêtent absolument pas à ce type de schéma. Enfin, toute la réglementation sur la santé, la sécurité au travail, qui là-dedans occupe une place considérable. Comment voulez-vous ouvrir à la négociation collective? Enfin, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même dans l'article 2, lorsqu'on regarde les dispositions sur les durées maximales, on ne peut pas dire, bah, tiens, on fixe une durée maximale à 48 heures, vous faites ce que vous voulez. Non, parce qu'il y a des textes aussi supranationaux qui nous contraignent. Donc, avec, prétendre qu'on va réécrire le code du travail autour de cette nouvelle architecture, moi, je suis extrêmement dubitatif. Ça peut marcher sur certains points, ça ne marchera pas et ça ne peut pas marcher sur d'autres. Donc, vous voyez que le bouleversement, il n'est pas si important qu'on veut bien le dire. Alors, je ne vais pas continuer trop longtemps, parce que pas non plus m'éterniser, mais on peut quand même s'interroger, après tout, pourquoi pas la négociation d'entreprise ? Pourquoi pas la négociation d'entreprise? Qu'est-ce qui est interdit? Est-ce que ce n'est pas, finalement, bien que de pouvoir faire un peu ce que l'on veut au niveau de l'entreprise? Parce que ce qui est souvent mis en avant, c'est que la négociation d'entreprise permet d'adapter la règle de droit au contexte particulier de l'entreprise, étant observé que toute entreprise est un petit peu différente. On ne fonctionne pas de la même, même si on est dans le même secteur, hein, on n'a pas exactement le même type de production, etc. etc. Oui, mais le problème, et il est important, c'est que si vous permettez, si vous libérez complètement la négociation d'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que entre les entreprises d'une même branche, vous allez avoir en fait des règles tout à fait différentes. Parce que l'intérêt de la négociation de branche, c'est qu'elle harmonise. Elle harmonise les règles pour toutes les entreprises de la branche. Et ça, c'est important, pas seulement d'un point de vue droit du travail, c'est aussi important d'un point de vue concurrentiel. Parce qu'en libérant la négociation d'entreprise, ben vous aurez des entreprises qui auront un coût du travail moins important que d'autres dans le même secteur. J'insiste, je ne vais pas comparer l'entreprise du textile, l'entreprise de la chimie, ça n'a pas de sens. D'accord ? Mais dans le secteur du textile, selon l'état du rapport de force dans l'entreprise, ben dans certaines entreprises, vous aurez une négociation collective importante, dense en termes d'avantages pour les salariés, donc un coût pour l'employeur, et dans d'autres où le rapport de force sera peut-être moins équilibré, des accords d'entreprise bah, qui ne seront pas très avantageux pour les salariés. Donc un coût moindre pour l'employeur, qui se répercutera sur quoi ? Bah, sur le coût du produit à la sortie. Donc, ouais, on va assurer en fait la concurrence entre les entreprises par, au fond, du moins-disant social, ce qui est quand même extrêmement problématique. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique aussi, et j'y reviens, pourquoi après 2004, la plupart des accords de branche comportaient une clause de verrou. Parce que les négociateurs de branche se disaient « Attends, il faut que quand même on harmonise un peu toutes les règles dans les entreprises de la branche. » Et sont demandeurs de cela, pas uniquement les syndicats de salariés. Les employeurs eux-mêmes sont demandeurs de cela. Parce qu'ils n'ont pas envie que dans le même secteur d'activité, il y ait une concurrence qui se fasse, etc. Donc vous voyez que ça explique toute l'importance qu'on minimise, je crois trop aujourd'hui, de la négociation de branche qui doit conserver une vraie valeur. Alors j'entendais ce matin que visiblement, on voudrait redonner un petit peu la main à la négociation de branche. C'est ce qui a été affirmé par, je ne sais plus qui, enfin peu importe, c'est ce qui est ressorti de discussions entre le gouvernement et les syndicats. Alors moi je m'interroge parce que, on dit ça, on va redonner un peu de pouvoir. Ben oui, ben à ce compte-là, on ne change rien. Si on veut redonner la main à la négociation de branche, on reste sur le système de 2004 et on n'en parle plus. Alors qu'est-ce que ça va être? On va faire des rapports, des machins, sur certains thèmes. Ben, sur certains thèmes, à mon avis, je pense qu'on se dirige plutôt vers ça. C'est-à-dire sur quelques questions, on sera sur le bon vieux système, à savoir principe de faveur. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Une nouvelle complexité. D'accord? Parce que, encore une fois, je vous rappelle que l'idée de départ, c'est simplifier, d'accord ? C'est faire plus simple. Or, j'aime autant vous dire que lorsque vous plongez dans la loi El Khomri, c'est tout sauf simple. Encore une fois, j'insiste, hein, le tout premier, celui qui est sorti, l'horrible avant-premier projet de loi, c'est 150 pages de texte. 150 pages, là, donc, qui vont modifier le code du travail. Donc, une nouvelle complexité. Donc, on a, ouais, c'est, nos pouvoirs publics sont un peu surprenants. Enfin, on dénonce la complexité, mais on y revient nécessairement, etc. Parce que le problème majeur vient de là. Parce que, encore une fois, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas réécrire le code du travail. Non. D'ailleurs, moi, je suis dans un groupe où on propose un nouveau code du travail pour un autre code du travail. Et on s'est attelé à la rédaction du code du travail. Mais avec cette idée qu'on peut très bien réécrire le code du travail sans forcément avoir toujours cette inspiration néolibérale derrière, avec cette idée que pour alléger les obligations d'employeur, il faut enlever des droits aux salariés. Non, on peut faire différemment. En tenant compte, parce qu'il faut toujours l'avoir à l'esprit, des hautes préoccupations des employeurs, parce que oui, ils ont des légitimes préoccupations. Moi, quand j'entends dire que le compte personnel, le compte de prévention de la pénibilité, ça va être compliqué à mettre en œuvre, je veux bien le croire. Hein. Alors que l'objectif est bon. Mais c'est vrai qu'il va falloir le gérer. Il va falloir que les DRH, quand vous discutez avec certains DRH qui ne sont pas forcément toujours en train de vouloir ôter des droits aux salariés, etc., vous dites « je ne sais pas comment on va faire ». Je ne sais pas comment on va faire. Donc, voyez, on fait des choses comme ça, et puis après, bon, mais débrouillez-vous. Il y a une vraie difficulté. Alors après, de là à dire, comme président du MEDEF, qu'on ne va pas appliquer la loi, un petit problème, je crois. Mais bon, moi, parfois, on peut se mettre à leur place aussi. C'est une vraie difficulté. Il ne faut pas la minimiser, hein. Très clairement, la difficulté du compte personnel d'activité. Alors, je reviens un petit peu aussi quand même à ma négociation d'entreprise, parce que, y compris dans le tout premier avant-projet de loi, on s'est dit, bon, on libère un petit peu, enfin beaucoup, la négociation d'entreprise. Il faudrait quand même donner un peu de légitimité à tout ça. Il faudrait donner, c'est normal, parce que quand vous commencez à dire, ben voilà, votre accord d'entreprise, il va faire ce qu'il veut, tout ce qu'il y a au-dessus, pour faire simple, on s'en fiche, ben, il faut que derrière, il y ait de la légitimité. Alors la légitimité, quelle est-elle? Elle passe par ce qu'on appelle en droit du travail le critère majoritaire. Le critère majoritaire, c'est quoi? Ça veut dire que l'accord, pour qu'il soit valable, doit être signé par un ou plusieurs syndicats qui ont obtenu au moins 50% des voix aux élections dans l'entreprise, comité d'entreprise ou délégué du personnel. C'est ce qu'on appelle le critère majoritaire. Alors, aujourd'hui, on n'y est pas, sauf dans quelques exceptions. Aujourd'hui, la condition, ce n'est pas 50, c'est 30, pour faire simple. C'est-à-dire que l'accord collectif n'est valable que s'il est signé par le ou les syndicats qui ont obtenu au moins 30% des voix aux dernières élections. Là, on va faire un saut qualitatif important. On va passer de 30 à 50. Pourquoi ? Ben comme ça, l'accord collectif, il a la légitimité. On dit aux salariés, attendez, regardez, votre accord, ne vous plaignez pas. Il a été signé par des syndicats pour lesquels vous avez porté vos voix, des syndicats majoritaires. Donc, votre accord est légitime. Problème. Et là, le législateur, enfin, il n'avait pas vu tout de suite, c'est que, ça peut vous paraître évident, mais c'est plus difficile d'avoir 50 que d'avoir 30. D'accord ? Et notamment, on s'en est aperçu. Oui, c'est là où on voit que souvent la loi, c'est un peu une loi de réaction. On réagit à des questions de fait. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on était sur 30, sauf dans quelques cas. Il y a certaines hypothèses où on est déjà passé à ce fameux critère majoritaire de 50%. Et notamment, la loi Macron l'a exigé pour les accords collectifs qui autorisent à travailler le dimanche. D'accord ? Et vous avez peut-être entendu parler, parce que ça a eu un écho assez important dans la grande presse, il y a eu une difficulté à la FNAC. Puisqu'à la FNAC, on s'est réuni avec les syndicats, puisque l'employeur dit ben « moi, j'aimerais bien qu'on ouvre le dimanche, autrement que quelques dimanches dans l'année sur autorisation du maire ou j'en sais rien ». Et là, les syndicats majoritaires ont dit « ben non, nous, on ne veut pas travailler le dimanche ». Et donc, comme il fallait 50% et que les syndicats majoritaires n'ont pas voulu signer, il n'y a pas eu d'accord collectif à la FNAC. Et ça, le législateur se dit « mince, 50%, c'est un problème ». Et donc, comme c'est un problème, comment on va résoudre la difficulté? Et donc, c'est de la réaction. Alors là, on n'est pas encore à l'état d'une loi, mais on est sur la discussion. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé pour contourner cet obstacle? Non, là aussi, je ne cache pas que ça me gêne un peu, parce que moi, dès lors que les syndicats majoritaires disent non, dont acte. Ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé? Alors, c'est pas nouveau. On a mis en place le référendum. Enfin, on veut mettre en place le référendum. Alors, ça existe dans notre code du travail, mais de manière extrêmement marginale. On peut faire appel au référendum, je le répète, de manière extrêmement marginale. Donc là, comment ça se passerait? Ça se passerait de la manière suivante. On négocie dans l'entreprise un accord collectif soumis au principe majoritaire, aux 50%, donc on se situe dans la prospective. Et là, vous avez les syndicats majoritaires qui disent « ben non, nous, on n'en veut pas d'autres accords collectifs. Trop dérogatoire, pas assez satisfaisant, il n'y a pas assez d'avantages de concessions, machin, etc. On ne signera pas. Ben, » s'ils ne signent pas, ça ne marche pas. Ce que prévoit l'avant-projet de loi, c'est que dans cette hypothèse-là, le ou les syndicats qui représentent 30% des voix, donc dont la signature est impuissante à assurer la validité de l'accord collectif, donc ceux ou ces syndicats qui représentent 30% des voix, vont pouvoir demander à l'employeur d'organiser un référendum. Voilà. Les syndicats majoritaires n'en veulent pas. Qu'à cela ne tienne, nous, syndicats minoritaires, nous demandons, alors il faut quand même avoir 30%, nous demandons l'organisation d'un référendum. Si les salariés votent pour, en majorité, l'accord collectif, je ne sais pas si on peut encore l'appeler accord collectif, est valable, s'ils disent non, ben on en reste là. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je dois vous avouer que j'aimerais bien qu'on dise à nos députés, à nos sénateurs, voilà, lorsqu'une loi sera refusée, enfin un projet de loi sera refusé à la majorité, on fera appel au référendum pour le contourner. Je ne sais pas ce qu'il dirait. Ben là, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est quand même problématique. Enfin, vous avez des syndicats majoritaires qui disent non. Imaginez, enfin, vous imaginez pour la paix sociale dans l'entreprise. Vous avez les salariés qui, en majorité, vont dire ben, « Nous, finalement, c'est oui ». Donc c'est un désaveu pour les syndicats majoritaires pour lesquels ils ont eux-mêmes voté. Et moi, ce qui me dérange également, c'est que enfin, quelle est la capacité d'un salarié, non pas qu'il soit bête, etc., mais quelle est la capacité d'un salarié à comprendre les ressorts d'un accord collectif ? Parce qu'un accord collectif, c'est tout sauf simple. Hein, d'accord ? C'est pas, parfois, c'est des pages et des pages avec des dispositifs, des stipulations qui sont parfois déplorables, affligeantes, tellement c'est mal écrit. Parce que, mais c'est ça aussi le compromis. Parfois, on cherche le compromis, on finit par le trouver, on rédige un truc qui est parfois volontairement incompréhensible. Pour pas que ça soit. Et donc, comment le salarié ? Parce que le salarié, il va lire l'accord, il va dire « Ah tiens, il y a une stipulation intéressante qui m'augmente un petit peu ma prime de rendement. » Oui, sauf qu'il y a à côté trois stipulations qui créent des... Oui, c'est un tout, un accord collectif. Et moi, je pense que les salariés ne sont pas armés hein, pour comprendre cela. Donc, oui, ça peut être extrêmement problématique. Parce que, encore une fois, la négociation avec les syndicats, il ne faut jamais oublier que derrière les syndicats, il y a quand même une machinerie. Hein, il y a une machinerie syndicale. Et dans les confédérations, les fédérations syndicales, il y a des juristes de très, très haut niveau. Donc, on peut s'appuyer sur eux. Donc, vous voyez que voilà, la négociation d'entreprise, elle est extrêmement problématique. Étant observé en plus, c'est qu'on peut aussi négocier dans l'entreprise, parce que traditionnellement, on négocie avec un délégué syndical qui est investi par un syndicat représentatif. Mais comme ce délégué syndical ne peut être désigné qu'à partir de 50, ben, le législateur a permis de négocier dans les entreprises de moins de 50 ou les entreprises dépourvues de délégués syndicales avec des salariés simplement mandatés par un syndicat ou avec des représentants élus. Alors, eux, j'aime autant vous dire que souvent, ils n'ont pas la machinerie syndicale derrière pour pouvoir s'appuyer, etc. Donc, quelle est leur capacité à comprendre un texte, à analyser un texte ? On peut véritablement s'interroger. Oui, soit dit en passant, moi, je trouve qu'il y a d'abord, dans la loi telle qu'elle a été adoptée au Sénat, un hiatus assez évident. Vous savez qu'ils ont tout multiplié par deux, les seuils d'effectifs. Donc, aujourd'hui, on peut désigner un délégué syndical dans une entreprise de plus de 50. Si on laissait faire le Sénat, ça serait 100. D'accord ? Les délégués du personnel, ça serait plus 11, ça serait 20, etc., etc. Moi, je trouve qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'eux-mêmes nous disent bah, « Non, on est très favorable à la négociation d'entreprise. Ben » Oui, mais si vous multipliez les seuils pour les acteurs, ben, il ne peut pas y avoir de négociation d'entreprise. Donc, à supposer même, hein, et je pense qu'elle va être adoptée en l'état, que cet article 2 soit adopté en l'état, ça ne résoudra pas des problèmes de fait. Parce qu'encore une fois, la négociation, c'est complexe. L'employeur, il ne décide pas tout seul. Il décide avec des syndicats. Et quand les syndicats sont des fortes têtes, après, moi, je suis dubitatif. Parce que la CFDT dit c'est formidable, on peut négocier au niveau d'entreprise. Enfin, oui, c'est bien de pouvoir négocier, mais quid du rapport de force, encore une fois. Et ça nous renvoie aussi à d'autres problématiques, à des problématiques profondes aussi de notre taux de syndicalisation. Dans certains pays, notamment les pays scandinaves, où la convention collective occupe une très très importante place, on a des taux de syndicalisation qui sont sans commune mesure avec les nôtres. Quoi. Donc on a une vraie difficulté aussi à ce niveau-là. Il faudra peut-être un jour se poser la question de comment on relance le taux de syndicalisation. Moi, je ne vous cache pas que je serais assez partisan qu'on réserve les stipulations des conventions collectives aux salariés membres des syndicats signataires. Enfin, ça serait un moyen d'inciter un petit peu. D'ailleurs, on s'interroge à ce titre-là, dans les hautes sphères, pour savoir comment, alors on parle, je ne vais pas le développer, mais ce qu'on appelle le chèque syndical, etc., qu'on pourrait généraliser par la loi. Donc, il y a une vraie difficulté. Donc, vous voyez que ouvrir largement la porte à la négociation d'entreprise, c'est délicat, parce que ces facteurs peut-être... de régression, mais ça pose encore une fois des problèmes très concrets de qui pour négocier, dans quelle mesure, etc. etc. Étant observé qu'en France, on n'a pas une grande culture de la négociation. Ça, on a plutôt la culture de la contestation. Il suffit d'ouvrir sa télévision, mais c'est une vraie difficulté. Hein. Je ne sais pas, vous avez entendu parler, il y a eu un rapport Combrexelle, de Jean-Denis Combrexelle, qui est aujourd'hui membre du Conseil d'État, qui a longtemps été directeur général du travail, qui est un peu à l'origine, pas complètement, mais qui beaucoup à l'origine de la loi El Khomri. Et il y a toute une partie de rapport Combrexelle, avant même de s'attacher aux problèmes techniques, de règles de droit, qu'est-ce qu'on fait, etc., dit en France, il faut relancer la culture, enfin, donner le goût de la négociation collective. Avec des propositions assez surprenantes, notamment, on vous dit qu'il faudrait qu'on fasse un enseignement de la négociation collective dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Et puisque ceux qui sont appelés à être chef de service, à être employeur, ce seront des ingénieurs peut-être, etc. Donc, mais je trouve que c'est tout à fait... parlant. Parce qu'encore une fois, pour que on négocie, il faut avoir le goût et l'envie et l'appétence pour la négociation collective, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas. Étant observé qu'il faut aussi... On ne distingue pas suffisamment dans notre pays les grosses et les entreprises et les petites, parce que l'avant-projet de loi El Khomri, il est très clairement fait pour les grosses entreprises. Pas du tout pour les TPE, les PME. Parce qu'ils n'y retrouvent pas. Enfin, ils disent, mais oui, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Effectivement, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Donc, c'était plutôt pour ça qu'ils étaient ravis au MEDEF, parce que le MEDEF représente plutôt des grosses entreprises. D'ailleurs, c'est des tensions assez fortes à l'intérieur du MEDEF, où il y a quand même des PME qui sont adhérentes, mais bon, passons notamment en termes de représentativité. Donc, voilà, il n'y avait pas grand-chose pour les petites entreprises, c'était plutôt pour les grosses qu'on s'adressait. Donc, voilà, donc, vous voyez que cet article 2, faut pas, c'est pas si révolutionnaire que ça, j'ai envie de dire, au regard de ce qui existe déjà, même si, effectivement, il y a un saut qui est quand même fait dans la libération, encore une fois, où on enlève les entraves, en fait, à la négociation d'entreprise. Mais lorsqu'on prend notre code du travail, on peut en faire des choses. Vous voyez, ça aussi, il faut se sortir de l'idée que le code du travail, c'est paralysant, quoi. On a parfois l'impression, moi, une fois, j'entendais un économiste qui s'appelle Landier, qui est de la Toulouse School of Economics, pour parler, qui disait, non, mais en France, vous voyez, on peut divorcer facilement, mais on ne peut pas licencier. Alors, quand vous entendez ça, je fais un bon comme ça sur ma chaîne. Déjà, ça veut dire que c'est une méconnaissance absolue du droit du divorce, comme si on pouvait divorcer en se serrant la main. Bon, allez, ça suffit, au revoir. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Notamment lorsqu'il y a enjeu des enfants, etc. etc. Et quant à dire qu'on ne peut pas rompre le contrat de travail, enfin, c'est une contre-vérité, mais absolue, quoi. Mais absolue. Bien sûr qu'on peut rompre un contrat de travail par licenciement, pour motif économique, pour motif personnel. Il y a aussi la rupture conventionnelle qui, Dieu sait, depuis sa création en 2008, a le vent en poupe. Donc, oser dire ça, mais c'est une ineptie. Alors, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'idéologie, soit c'est de la bêtise, mais il y a un vrai problème. Donc oui, on peut rompre le contrat de travail. Pour ça qu'on pouvait trouver curieux, ce qui était aussi, alors ça a été remis par les sénateurs, le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, alors encore une fois... Nous sommes des juristes dans la salle. C'est choquant parce que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a vocation à réparer un préjudice. Or, un préjudice, ça ne se plafonne pas, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ça serait comme dire, en matière de, je sais pas, d'accident, bon, lorsque vous perdez une jambe, c'est 100 €. Hein, d'accord. Deux jambes, c'est 200. Enfin, ça n'a pas de sens, ça. D'accord. Cet exemple qu'on donne, le professeur de piano qui perd un doigt, il a un préjudice un peu plus important que le chauffeur. Oui, oui, donc... On ne peut pas raisonner comme ça, en plafonnant. Étant observé ce qu'on plafonne quand même, ce sont les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire le licenciement qui est prononcé sans juste motif. Donc ça aussi, alors, oui, mais moi, je ne suis pas certain, j'ai peur de... Mais, enfin, licencier avec un juste motif, déjà, tu n'auras pas une condamnation. Hein. Donc voilà, c'est la première règle à dire. Parce que lorsqu'on licencie avec un juste motif, on a une indemnité de licenciement qui est fonction de l'ancienneté. Donc on voit ici qu'on a des droits qui croissent avec l'âge. Donc vous voyez que là aussi, on entend des choses ici et là qui sont pour le moins surprenantes. Alors ça y était. Hein, donc il y avait une volonté au départ. Hein, donc eu égard à la levée de bouclier, parce que c'était une des dispositions, des marqueurs de l'avant-projet de loi El Khomri qui a très clairement suscité l'ire, là pour le coup, de tous les syndicats, y compris des syndicats réformistes, comme on les appelle, la CFDT. Ça revient avec le Sénat, mais ouais, en disant, mais c'est là, on dit, voyez ce qu'ils font, le Sénat? Voyez ce qu'ils se préparent si jamais on perd après? Parce que c'est des jeux politiques, tout ça. Mais est-ce qu'ils auront le courage de le faire? Ils n'ont pas eu avant, donc est-ce qu'ils l'auront ensuite? Moi, j'en sais rien. Mais ça, moi, je trouve que c'est une vraie disposition scandaleuse. D'accord, parce qu'encore une fois, on n'a pas à plafonner les indemnités. Et là aussi, lorsqu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans les conseils de prud'hommes, parce qu'on va toujours vous présenter un exemple où un conseil de prud'hommes a condamné un employeur à des mois et des mois de salaire. Bon, c'est un exemple, c'est l'arbre qui cache la forêt. Très concrètement, les conseils de prud'hommes font attention. Mais l'idée, c'est quand même de réparer un préjudice. Et ça, c'est fondamental. Ne pas oublier cette règle-là. Hein, on n'est pas plafonné, c'est choquant. C'est choquant de plafonner un préjudice. On ne le concevrait pas ailleurs. Ben là, je crois qu'il ne faut pas le concevoir. La dernière petite chose, et j'en terminerai par là, c'est qu'il y a aussi une autre disposition dans la loi qui, elle, fait... qui est évoqué de temps en temps, qui est également problématique, c'est la possibilité de... Oui, on est toujours sur l'accord collectif. Hein, la possibilité de négocier au niveau de l'entreprise des accords de préservation, de développement de l'emploi. D'accord ? Alors, préservation, développement de l'emploi. Alors, ça existe déjà un petit peu, sous une certaine forme, c'est ce qu'on appelle les accords de maintien dans l'emploi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ces accords de maintien dans l'emploi, en fait, c'est... pour dire très simplement les choses, en substance, c'est que lorsqu'une entreprise rencontre de graves difficultés économiques d'ordre conjoncturel, elle peut négocier un accord collectif qui va pouvoir comporter des réductions de salaire, une augmentation de la durée du travail pour justement faire face à ces difficultés conjoncturelles. Donc l'idée ici, voilà, au fond, ce n'est pas complètement idiot, moi, je trouve. C'est-à-dire que l'employeur dit, bon, voilà, j'ai des difficultés, plutôt que d'attendre le bout du bout, je serai obligé de licencier. Est-ce que pour faire face à ces difficultés, on ne peut pas, entre nous, dire que, voilà, ben, on va geler un petit peu les salaires, on va abandonner un petit peu sur les primes, etc., parce que l'idée, c'est de franchir la mauvaise passe. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée, en soi, dans les conditions dans lesquelles c'est fait. Alors, ça a été fait en 2013, d'accord. Depuis 2013, il y a eu moins de 10 accords signés. Or, si vous reprenez un peu, allez voir ce qui s'est passé en 2013. Le ministre du Travail, à l'époque, c'était M. Sapin, nous présentait ça comme une révolution, quelque chose qui allait changer, bouleverser les choses. 10 accords signés depuis 2013. Il y a un problème quelque part, d'accord. Où il est? Sans doute dans le fait que les textes, là aussi, comme on veut ménager la chèvre et le chou, on n'ose pas aller jusqu'au bout des choses, etc. Donc, au fond, quand vous discutez avec un avocat, avec un praticien, vous dites, oulala, un accord de maintien dans l'emploi, surtout pas, parce qu'on ne sait pas où on va. D'accord. Donc, vous voyez que là, à nouveau, on rajoute une couche dans le code du travail, comme c'est compliqué, comme c'est mal fait, etc., ça ne sert à rien. Et donc, l'idée ici, ça serait, sans supprimer d'ailleurs ça, ce qui est, de mon point de vue, extrêmement curieux, ça serait donc de permettre, un peu sous la même philosophie, hein, des accords de préservation, de développement de l'emploi. Préservation, voilà, j'ai des difficultés, on fait un accord. Développement de l'emploi, j'ai envie de recruter, tout va bien, mais je vais recruter, on va faire un accord. D'accord. Donc vous voyez qu'ici, les conditions de signature sont beaucoup moins strictes. Avec les accords de maintien dans l'emploi, il faut de graves difficultés économiques conjoncturelles. Là, il suffit de dire dans le préambule de votre accord, ben, moi, j'ai envie de développer l'emploi. Moi, j'ai envie de préserver l'emploi. En avant, vous pouvez signer votre accord. Et dans cet accord, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Ben, vous pouvez mettre des stipulations qui vont, par exemple, réduire les primes, qui vont allonger la durée du travail. Alors, entendons-nous bien, quand on allonge la durée du travail, c'est-à-dire, par exemple, ben, on va travailler 39 heures et non plus 35. Mais attention, 39 heures payées, 35. Vous voyez, donc, je dis oui, ben, pourquoi pas. Mais avec cette précision, c'est que ces accords-là vont s'imposer aux salariés. Et donc, le salarié qui dirait... parce que vous voyez, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une toute petite norme qu'il ne fallait jamais oublier, c'est le contrat de travail. Parce qu'aujourd'hui, un salarié peut dire, attendez, moi, l'accord collectif, il ne me concerne pas parce que mon contrat de travail, il est plus favorable. Donc, votre accord collectif, j'en veux pas. Ben, si le projet de loi El Khomri est adopté, ça va changer. C'est-à-dire que lorsque vous allez signer un accord de préservation ou de développement de l'emploi, il va s'imposer au contrat de travail, il va s'imposer au salarié. Si le salarié n'en veut pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la porte, il va être licencié, alors pour motif économique, individuel, enfin, rentrons pas dans le détail. Donc, avec, là aussi, c'est un changement important. Important parce qu'aujourd'hui, le contrat de travail, c'est un peu un verrou. Vous voyez, qui est d'ailleurs assez gênant, hein, un verrou. Voilà, le salarié peut résister, hein, peut résister à ce qu'il y a au-dessus en disant mon contrat de travail, il est plus favorable, mon contrat de travail, il me garantit ceci ou cela, moi, je ne veux pas de l'accord collectif. Ben, ça va disparaître avec, encore une fois, quelque chose qui est extrêmement flou. Je le répète. Ben moi, je vais préserver l'emploi. Dans quelle proportion? On n'en sait rien. Il y a un contrôle? On n'en sait rien. Je vais préserver l'emploi. Donc, on va réduire les primes, on va augmenter la durée, etc. Est-ce qu'on préserve l'emploi? On n'en sait rien. Est-ce qu'on le développe? On n'en sait rien. Donc, vous voyez que ça, c'est... Vous voyez, pour moi, c'est une disposition autrement plus problématique, celle-là, que l'article 2. Autrement plus problématique et autrement plus pernicieuse, de mon point de vue, porteuse de problèmes, plus que l'article 2. Vous voyez, parce que là, on ouvre... Encore une fois, avec ces possibilités de négociation avec des salariés mandatés, etc., il faut... Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur tout le monde, mais quand vous êtes confronté à un chantage à l'emploi, où l'employeur dit, bah, écoute, soit tu signes, soit je licencie 20% des salariés. Vous faites quoi, là, vous voyez, il faut se mettre à la place un peu parfois de ceux qui négocient. Quand vous êtes un délégué syndical, quand vous êtes un, bon, parfois un peu trop, pour le coup, un peu brut de décoffrage, bon, à la limite, vous dites, attendez, je vais téléphoner, je vais prendre des renseignements. Lorsque vous êtes un petit délégué du personnel dans une entreprise de 15 salariés, vous êtes élu sur une liste non syndicale, l'employeur dit, dis donc, on va signer un accord, là, parce que moi, tu comprends, si on réduit pas les primes, si on n'augmente pas la durée, moi, je vais être obligé de licencier 6 salariés. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Ben, vous signez. Vous signez, voilà, parce que j'ai envie de dire, vous n'avez pas d'autre choix, quelque part. Donc, c'est là qu'on a une vraie difficulté, et là qu'on a une vraie source de danger. Et ça, c'est une autre disposition problématique. Alors après, on a aussi un petit peu modifié la définition du licenciement pour motif économique. Alors, là aussi, là, vous voyez, enfin, l'idée, c'est que, toujours pareil, celui qui fait peur, c'est le juge. Vous voyez, parce qu'on peut licencier pour motif économique, bien évidemment, contrairement à ce que dit... notre économiste de tout à l'heure, on peut licencier pour motif économique, notamment on peut licencier lorsqu'on a des difficultés économiques. Sauf que dire, dire difficulté économique, le juge dit oui, mais alors de quelle nature ? Importante, pas importante ? Il y a un contrôle qui se fait, et heureusement. Et donc ce contrôle, ça ne plaît pas. Parce que parfois, le juge dit, ben non, moi je considère qu'il n'y a pas de difficulté économique. Et donc vos licenciements, ils ne sont pas valables. Et donc pour éviter un peu ce contrôle du juge, l'idée, ça serait d'enfermer, de préciser un petit peu plus, sans trop rentrer dans le détail, dire que par exemple, il va y avoir difficulté économique lorsque le chiffre d'affaires va baisser. D'accord ? Et là, vous regardez la loi, on va distinguer cette baisse, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais prenons cet exemple-là, le baisse du chiffre d'affaires en fonction de l'effectif. Dans une entreprise qui a par exemple moins de 20 salariés, il suffit que de deux trimestres de baisse du chiffre d'affaires, vous avez des difficultés. Donc l'idée, elle est très simple, c'est que ben, le juge, il ne contrôle plus. Ce juge, deux mois de baisse du chiffre d'affaires, la loi me permet de licencier pour motif économique, donc je licencie pour motif économique. Le licenciement est justifié. Oui. Le petit problème, c'est qu'on ne nous dit pas de combien doit baisser le chiffre d'affaires. Et là, on a... Et la loi, enfin, c'est là où le législateur est, enfin, il fait les choses à l'envers. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Parce qu'entre une baisse du chiffre d'affaires de 1% et de 40%, ce n'est pas tout à fait pareil. Et donc, qui va contrôler ? Ben, le juge. Oui, le juge, vous le sortez par la porte, il revient par la fenêtre, mais c'est inévitable. Donc, on passe simplifier, mais on ne simplifie rien en réalité, parce qu'on ne s'accorde pas sur l'importance du chiffre d'affaires. Et puis après, bon, imaginons, vous avez 20%, alors après, je licencie combien ? 10% du personnel, 15, 5, etc. Qui va contrôler ? Le juge. C'est vrai que, bon, ce n'est pas facile. Hein. Moi, justement, pour participer à ce projet de réécriture du Code du travail... C'est pas facile d'écrire les textes, je vous l'ai dit. Et lorsqu'on est juriste, lorsqu'on est universitaire, on a plutôt tendance à commenter, à dire bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est nul, etc. Lorsque vous attelez à la tâche, mais c'est pas impossible, mais il faut le faire. D'accord ? Il faut le faire. Mais je crois qu'il y aurait très clairement matière à simplifier, parce qu'effectivement, lorsqu'on ouvre un code du travail, qu'on est un simple employeur ou un simple salarié, pour y retrouver ses petits, c'est une complexité inouïe. Donc je pense qu'on pourrait faire plus simple, et c'est pour ça que. D'ailleurs, personne n'est hostile à une réécriture du Code du travail pour le rendre plus accessible. Il suffit juste de changer les termes. Mais il est compliqué par la volonté, par le fait même de celui qui aujourd'hui en dénonce la complexité, à savoir le législateur, qui rajoute à l'envie des couches, des dérogations, etc. Parce que, au fond, depuis 1982, je ne sais pas brièvement décrit, mais le sens, il est dans. C'est toujours plus de dérogations. Parce que c'est ça depuis 1982. Pourquoi le régime juridique du contrat à durée déterminée est complexe ? Parce que vous avez des principes, 36 exceptions. D'accord ? Pourquoi ? Pour donner plus de flexibilité à l'entreprise. Mais comme on le fait de manière un peu curieuse, sans choisir, bah, tout cela est complexe. Vous voyez, donc moi je trouve que ce qu'on pourrait aussi imaginer, c'est en réécrivant le Code du travail, c'est aussi mettre au service et à la disposition des employeurs, notamment des petits employeurs, bah, un service... juridique peut-être, qui serait par exemple placé auprès des directs. Alors, justement, il y a un ersatz, j'ai envie de dire, dans la loi El Khomri, et ça, c'est une disposition intéressante. Mais par exemple, le petit employeur qui a moins de 11 salariés décroche un chantier, qu'est-ce que je fais ? Quel contrat de travail ? Ben, il décroche son téléphone, il appelle ce service-là en disant « qu'est-ce que vous me conseillez ?»« Ah ben tiens, vous avez le contrat de chantier, vous avez le contrat de ceci, etc. etc. » Voilà, je vous envoie un modèle, vous le remplissez et on valide. Ça serait très intéressant. Ça créerait de l'emploi en plus, ça serait formidable. D'accord, alors ça aurait un coût. Mais ce coût, on pourrait le reporter justement par une taxe intelligente sur les entreprises qui financerait un service qu'on leur rendrait. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses à faire. Après, voilà, il ne faut pas oublier que le droit, il est aussi sous-tendu par des valeurs. Hein. C'est important, ça, d'avoir à l'esprit. Le droit, il n'est pas au service uniquement de l'économie, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains. Le droit, il défend, il représente aussi des valeurs. Et donc, on pourrait imaginer aussi de replacer le salarié au centre un peu de tout cela. Hein. Après, c'est des projets plus vastes qui demandent une plus grande hauteur de vue. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'on fait un petit peu... On part au plus pressé. Et toujours avec ce... Et on a l'impression un peu que le discours dominant, très clairement, il est libéral et néolibéral, et que hors ce discours, il y a point de salut. Quoi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui met des gens dans la rue en disant qu'il y a peut-être une autre manière de faire que toujours celle-là. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cet article 2 de la loi El Khomri, qui, je crois, n'est pas aussi révolutionnaire qu'il en a l'air. Il y a des dispositions plus problématiques dans la loi El Khomri que celle-là, je crois. Voilà, je vous remercie de votre attention.